Quel est l'état du pays 7 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy?
Quand on voit Monsieur Sarkozy, le grand chef vendeur.
Je crois qu'en politique, il ne faut pas avoir l'alliance honteuse.
J'aimerais qu'on m'indique pourquoi je ne devrais pas le faire, alors que les autres le font. Qu'est-ce que c'est que cette naïveté? Et alors?
C'est très compliqué à comprendre.
Vive la République et vive la France.
Sur un air de campagne.
Sur un air de campagne.
Sophie Bakker.
Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'air de campagne, l'émission politique de RFI. Ni la vaste réforme des politiques publiques annoncée en milieu de semaine par le président de la République, ni le projet de loi sur le pouvoir d'achat adopté en Conseil des ministres n'ont réussi à distraire la classe politique de la visite en France de Muammar Kadhafi, le numéro 1 libyen. Visite très controversée que nous allons bien sûr évoquer sans nous priver d'aller sur d'autres sujets. Nos invités pour cette émission, Kitry Delmas, délégué national du Modem, le parti de François Bayrou, et Serge Portelli, magistrat, vice-président du tribunal de Paris et auteur de Nicolas Sarkozy 2. Une république sous haute surveillance, un ouvrage publié chez l'Harmattan. Nous parlerons avec lui de la politique sécuritaire en France. Mais je commence avec vous. Bonjour Kitry Delmas.
Bonjour.
Alors Nicolas Sarkozy avait promis d'engager la France dans une diplomatie morale. Ce qui s'est passé cette semaine avec Muammar Kadhafi vous paraît aller dans ce sens?
Moi, ça me paraît aller dans un drôle de sens qui n'est pas forcément très rassurant, puisque on ne sait plus sur quelle valeur vraiment la France se tourne, quelle valeur la France promet. Et donc, est-ce que c'est la valeur du business? Est-ce que c'est la valeur de vendre des armes? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est la promotion des droits de l'homme, les valeurs démocratiques, dire que chaque citoyen a le droit de vivre dans une démocratie? Et en fait, Kadhafi, c'est un peu la suite de ce qui s'est passé, des déclarations de Nicolas Sarkozy en Chine et vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'il a applaudi des trois mains quand il a été élu. Et c'est un peu dans cette continuité-là qui ça semble vraiment très inquiétant.
François Bayrou, le patron du Modem, s'est indigné qu'on ait déroulé le tapis rouge, je le cite, pour un dictateur sanguinaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a réussi à faire émerger sa voix, ou est-ce que finalement elle s'est perdue dans un concert de critiques?
Je pense que toutes les critiques, à ce moment-là, quand elles sont expliquées et expliquées de manière sereine, sont importantes et chacun doit faire entendre sa voix. Moi, j'ai entendu François Bayrou, il y a plein d'autres personnes qui ont entendu François Bayrou. Et effectivement, il y a des critiques dans l'opposition, et là, c'était le plus difficile, c'était dans la majorité. C'est au début, on n'entendait que Ramayad. C'était impossible de faire entendre une autre voix que ça. Ça a duré 3 jours, et notamment les 2 premières journées, on parlait que de Ramayad, et qu'est-ce qu'elle va penser, et ce qu'elle va dire, et Nicolas Sarkozy.
Ramayad, la secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui, dans une interview au Parisien Libéré, a parlé d'un paillasson. La France n'était pas un paillasson sur lequel on pouvait s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits.
Donc effectivement, au tout début, c'était difficile de se faire entendre aux côtés de Ramayad. Et ensuite, on a vu que beaucoup de voix s'élevaient de quelque parti que ce soit pour dénoncer, que ce soit de l'UMP, des parlementaires, que ce soit des centristes, mouvements démocrates, que ce soit des gens des personnes de gauche. Et je pense que quand on parle de valeurs qui nous tiennent le plus profondément à cœur, il est sain de s'élever au-dessus des clivages et de défendre ensemble ces valeurs.
Donc ça vous a paru satisfaisant finalement, cette mobilisation contre le choix de Nicolas Sarkozy?
Alors c'est très satisfaisant, sauf que c'est trop tard. C'est une fois qu'il est là qu'on en parle, c'est une fois, et voilà, Ramayad n'a pas découvert que Kadhafi venait ce jour-là, Kouchner non plus, et nos hommes politiques non plus, donc je pense que la politique, c'est discuter aussi avant les choses quand elles arrivent, et de les anticiper, et de pouvoir infléchir la position d'un président de la République, ou voilà, mobiliser avant l'opinion publique, de dire voilà, on va pas pouvoir qu'on reçoive Kadhafi. Pourquoi pas, ça se discute. En revanche, qu'on bloque tous les ponts de Paris, qu'on déploie le tapis rouge, ça, c'est pas possible.
Les autres questions de Patrice Bianco, du service politique de RFI.
Kitry Delmas, bonjour. Vous êtes aujourd'hui délégué national du Modem. Alors, est-ce que ça signifie que vous avez désormais vocation à devenir parlementaire?
J'ai vocation d'abord à être au service du mouvement démocrate pour construire cette famille politique. Les élections, donc il va y en avoir plein, il va y avoir les municipales, les régionales, les sénatoriales,
les européennes
l'année prochaine. On a vocation, là pour l'instant, à préparer les candidats partout en France, à les former. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de citoyens qui se sont engagés aux côtés de François Bayrou, qui ne sont pas élus aujourd'hui. On a eu aussi beaucoup de départs, mais c'est bien, ça
clarifie. On va en parler.
Tant mieux, parlons-en. Et je pense que, voilà, on a préparé tout ce beau monde qui a des compétences, qui va les mettre au service des Français. Et c'est mon challenge aujourd'hui.
On peut se demander, vous avez été un peu l'égérie du net pour le MoDem. Est-ce que c'est pas un peu une sorte de lot de consolation après la bagarre pour la 10e circonscription qui vous a opposé à Marielle de Sarnez? Il y a une bagarre, non?
J'ai effectivement pas été investie aux législatives. Je pensais, avec le travail de terrain, avec toute l'équipe qu'on avait menée dans le 13e arrondissement de Paris, qu'on avait mérité cette investiture. Ça n'a pas été le cas. Pour des raisons politiques, il y a des Verts qui nous ont rejoints.
Alors lesquels?
Là, c'était par exemple Daniel Auffray qui est venu sur la 10e circonscription. C'est un choix. Ce que je reproche à ce choix, c'est qu'il a été fait de manière arbitraire. Que je n'ai pas pu ni défendre ma demande d'investiture. Voilà, donc c'est des choses, des événements qui ne peuvent plus arriver. Alors comme effectivement je suis branchée avec le net, les gens le voient que je ne suis pas investie. Je parle pendant 8 mois sur mon blog du 13e arrondissement, puis tout d'un coup, ah ben non.
Mais vous ne répondez pas précisément à ma question. Est-ce qu'il y a eu une bagarre avec Marielle de Sarnez ou pas?
Il n'y a pas de bagarre.
Pas de bagarre.
Il y a des discussions depuis septembre pour savoir quelles règles du jeu on va construire pour ce qui m'est arrivé à moi et pour ce qui est arrivé à beaucoup d'autres personnes à l'UDF, mais aussi dans tous les autres partis. Chaque année, à chaque élection, il y a des tonnes de personnes à qui on dit « vous allez être investis » qui ne sont jamais investis. Là, la nouveauté, c'est que moi, ça s'est vu. Et donc, je pense que grâce à Internet, la mobilisation qu'il y a eu, alors que je n'ai pas beaucoup fait de commentaires, des courriers qui ont été envoyés à François Bayrou et Marielle de Sarnez, je pense qu'ils se sont dit « là, effectivement, c'est pas bien joué. Et il va falloir qu'on construise des règles beaucoup plus transparentes par la suite pour que les gens comprennent pourquoi ils sont investis ou pourquoi ils ne sont pas investis. »
Et du coup, vous êtes délégué national.
Moi, honnêtement, je pense que ça n'a rien à voir. C'était la volonté de François Bayrou de faire émerger quelques têtes de la génération nouvelle aux côtés des sénateurs ou des parlementaires d'aujourd'hui et de montrer qu'il faisait aussi confiance et qu'il allait renouveler son entourage propre, donc ses idées, donc les règles du jeu.
Alors, finalement, vous avez déclaré récemment que le MoDem, ce n'était pas un parti, mais un mouvement. Pourtant, on a l'impression que les méthodes sont à peu près les mêmes que dans un parti. Un chef et tout le monde a sa dévotion et son ambition. Écoutez.
J'ai quitté la direction du MoDem, ça c'est vrai, indiscutable. Je n'ai pas quitté ni les électeurs, ni le corpus de pensée. Mais aujourd'hui, ce parti est dirigé par des gens qui ne font aucune proposition. Leur aide à la construction au pays, c'est d'être au bord de la rivière et d'attendre que les choses soient assez graves pour que peut-être un jour on vienne les chercher. Je ne veux pas être dans cette bande.
Alors, Quitriel Mas, MoDem, parti ou mouvement, c'est Jean-Marie Cavada qu'on a entendu, vous l'avez reconnu bien sûr. Est-ce que finalement les pratiques de François Bayrou sont des pratiques à l'ancienne?
Moi, ce que j'aime dans Jean-Marie Cavada, c'est que quand il change de parti, ou il va prendre une investiture pour le Françoise de Panafieu à l'UMP, il ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que lui est investi. Donc il est investi de manière non démocratique, les militants, les adhérents du 12e arrondissement ne l'ont pas choisi, donc ce qui pouvait le gêner au mouvement démocrate ne le gêne plus quand il suit sa trajectoire personnelle. Voilà, cherchez l'erreur. Aujourd'hui, oui, le mouvement démocrate est un mouvement, et moi je suis en guerre contre les appareils, les partis politiques, parce que c'est du gâchis de s'engager, d'idéaux et tout ça. Donc les règles du jeu aujourd'hui, tous les partis politiques ne sont pas claires, et j'aimerais que le mouvement démocrate soit le premier parti du 21e siècle, et que ça permette de faire émerger les meilleures compétences et pas les gens qui ont plus de fric ou les gens qui ont plus de réseau ou les gens qui sont fils d'eux. Ça, c'est terminé. Je pense qu'on en a marre de cette classe politique. Et donc, c'est à ça que servira le mouvement démocrate. Et François Bayrou est tout à fait conscient de ça. Et c'est la première fois que dans un mouvement politique, les adhérents écrivent ensemble les règles du jeu et écrivent les statuts. Et c'est ce qui s'est passé au Congrès fondateur. C'est unique et historique.
Dernière chose qui serait Delmas, vous êtes pour le renouvellement, mais pas le renouvellement jusqu'en haut finalement, c'est ça si j'ai bien compris. C'est-à-dire que Bayrou, on le garde.
Bayrou, on a besoin de lui. C'est lui qui conduit, c'est lui qui a créé les conditions de cette voie historique lors des présidentielles. 7 millions de voix, une famille politique, on a doublé le nombre d'adhérents au mouvement démocrate. C'est lui qui permet ça, c'est lui qui ouvre cette voie. Maintenant, il faut qu'on pousse derrière lui et qu'on construise cette voie. Et il faut qu'il y ait une équipe pour ça et qu'il soit effectivement pas tout seul.
On va poursuivre cette aire de campagne avec la photo sonore de la semaine. Sur un aire de campagne.
Sur un aire de campagne.
Le magazine politique de RFI. Alors, on vient d'en parler. La semaine a commencé par une déclaration de Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme, au quotidien Le Parisien, avec cette phrase que je rappelle, la France n'est pas un paillasson sur lequel on peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. Réaction immédiate du PS le lundi matin par la voix de Pierre Moscovici.
En la lisant, j'ai quand même eu une, comme ça, une petite interrogation. Je me suis dit, mais qui est cette dame? Et après, je me suis aperçu qu'elle était membre du gouvernement. Soit Ramayad pense ce qu'elle a dit, et c'est quand même extrêmement fort. Alors à ce moment-là, elle n'a pas sa place dans un gouvernement dont elle estime que les droits de l'homme sont la dernière des préoccupations. Et elle s'en va. Serait de la gueule d'ailleurs. Soit elle ne pense pas ce qu'elle a dit. Et à ce moment-là, il fallait se taire et pas se donner de publicité. Je trouve que ce n'est pas une bonne méthode de gouvernement. La cacophonie ne doit pas être une méthode de gouvernement.
Du coup, la première rencontre entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi, lundi après-midi, est l'occasion d'une première mise au point du président français.
Vous savez la confiance et l'amitié que j'ai pour Ramayad, qui se trouve était à mes côtés à Tripoli lorsque la France a indiqué au président Kadhafi qu'elle le recevrait en France après la libération des infirmières. Et Ramayad a confirmé par ailleurs depuis combien elle était en accord avec le principe de cette visite. Et par ailleurs, elle est secrétaire d'État aux droits de l'homme et c'est parfaitement normal qu'elle assure une conviction sur le sujet que par ailleurs je partage et que j'ai rappelé au président libyen.
Alors pas du tout, affirme en réponse le numéro 1 libyen dès le lendemain sur les antennes de France 2.
Tout d'abord, nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Nous sommes amis et proches collaborateurs.
Ça n'a pas été évoqué.
Pas du tout, absolument pas. Aujourd'hui, la question des droits de l'homme ne se pose pas.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un tacle. Il y a aussi la version numéro de claquette, un ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, devant les députés, qui s'en sort comme il peut.
Vous avez cité un certain nombre des prises de position de M. Kadhafi. Sachez que je les réprouve. Lorsqu'il a dit que le terrorisme était l'arme des pauvres, ça n'était pas suffisant. Lorsqu'il a dit qu'il n'était pas pour les accords de paix entre Israël et la Palestine, il a eu tort et nous le condamnons. Lorsqu'il a parlé des droits de l'homme ici, c'est-à-dire des droits de l'homme dans notre pays, en Europe, c'était assez pitoyable et nous le condamnons. Vous avez raison, il y a les paroles et nous les condamnons souvent, mais il y a aussi l'évolution depuis quelques années.
Évolution depuis quelques années à voir. En tout cas, c'est Hervé Mariton, élu UMP de tendance villepiniste, qui tente le résumé de la semaine.
On est manifestement dans une situation bizarre. On se demande si Ramayad, il y a quelques jours, n'a pas fait les choses en service commandé. Je crois que quelque part, certains ont voulu recevoir Kadhafi sans cautionner totalement ce qu'il est et ses propos. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une espèce de spécialisation des rôles. Que Kouchner condamne les horreurs de Kadhafi, c'est normal. Mais au fond, c'est tout le gouvernement de la République et tout l'exécutif qui devrait condamner. Et ça serait encore plus clair. La gauche plurielle, ça n'avait pas marché, mais on est en train d'inventer une espèce de droite plurielle où on trinquait un bout et l'autre bout à la fois. Bon, je souhaite simplement qu'on ne s'y garde pas.
Voilà, à suivre. On va profiter donc de cette visite en France de Muammar Kadhafi pour examiner l'ensemble de la politique africaine de Nicolas Sarkozy. C'est notre dossier du service politique de RFI. Bonjour, Véronique Rigolet.
Bonjour.
Alors, on a l'impression que malgré son volontarisme en matière diplomatique, Nicolas Sarkozy semble avoir un peu de mal à installer une relation, on va dire, sereine avec le continent africain.
Oui, absolument pas facile pour Nicolas Sarkozy de succéder à celui que l'on avait affectueusement surnommé sur le continent Chirac l'Africain. Et d'autant moins que, paradoxalement, eh bien, le candidat Sarkozy avait beaucoup promis durant la campagne d'en finir avec la France-Afrique, d'instaurer une relation nouvelle avec le continent, moins paternaliste, plus empreinte du respect des droits de l'homme. Et puis, patatras, si j'ose dire, première tournée africaine en juillet et premier faux pas avec ce qu'on appelle aujourd'hui, et même dans les rangs de la majorité, le calamiteux discours de Dakar. Le texte a certes été rédigé par le conseiller spécial Henri Guénaud, mais c'est Nicolas Sarkozy qui, à la tribune, eh bien, soulève colère et émotion en affirmant que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Jamais, dit-il, il ne s'élance vers l'avenir. Des mots que les Africains ne sont pas prêts d'oublier. Une vraie gaffe diplomatique, estime le député socialiste François Loncle.
C'est une énorme gaffe du discours de Dakar à mettre sur le compte de Guénaud. Mais enfin, quand un président de la République relit pas ou ne relit pas bien le discours de son conseiller, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est pas seulement les petites phrases vraiment à la limite du racisme de Monsieur Guénaud. C'est une tonalité totalement donneuse de leçons à l'égard des Africains. Et ça, c'est insupportable. Alors, ce qui est grave, pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Parce que il va falloir des mois et hélas peut-être des années pour remonter la pente, pour remonter ce handicap, parce que c'est maintenant dans la tête des peuples africains.
Et malgré la polémique qui perdure, Nicolas Sarkozy persiste en tout cas dans sa volonté de rupture, de changer la relation franco-africaine et surtout d'en finir avec les critiques du passé sur le passé colonial de la France. La tâche n'est pas aisée, ambiance plutôt froide hein, lors de la visite en Algérie la semaine passée. Nicolas Sarkozy dénonce avec force l'injuste système colonial, mais en excluant toute idée justement d'excuses, la France n'a pas à s'inscrire dans la repentance. Explication du député Yves Jégo, porte-parole de l'UMP.
Nicolas Sarkozy n'a pas l'intention d'incarner une quelconque repentance concernant l'histoire de notre pays. Il faut assumer l'histoire de France avec toutes ses facettes, quelles qu'elles aient été ses facettes. Il faut que ce travail de mémoire soit un travail qui soit fait en commun entre la France et l'Algérie. Mais je crois que personne ne gagnerait ni à rouvrir des blessures qui sont encore très vives chez certains de nos compatriotes et très vives, je l'imagine, en Algérie, ni à chercher à humilier ou à impressionner l'autre. Je crois que la France et l'Algérie se regardent en adultes sera une bonne chose pour l'avenir.
Alors, pas de repentance sur le passé, Véronique, car c'est l'avenir qui intéresse le président Sarkozy. Il propose aux Africains la création d'une union méditerranéenne.
Une union qui se ferait sur le modèle européen, avec bien sûr les pays du Maghreb, mais qui bénéficierait à terme, bien sûr, à tout le continent. Accueil poli hein, pour le moment des principaux concernés, mais Nicolas Sarkozy, lui, veut y croire. Il est prêt à donner beaucoup pour réaliser son grand projet. C'est d'ailleurs en grande partie hein, bien pour cette raison qu'il a déroulé cette semaine le tapis rouge au colonel Kadhafi, malgré la polémique, malgré les violentes critiques sur la venue du guide libyen à Paris. La Libye, explique-t-on à l'Elysée, est incontournable pour bâtir cette union. David Martinon est le porte-parole de l'Elysée.
De toute manière, l'avenir de l'Union de la Méditerranée passe aussi par la Libye. La Libye doit prendre toute sa part à la construction de l'Union de la Méditerranée. Et c'est bien ce à quoi on travaille. Et d'ailleurs, nous avions enregistré que le colonel Kadhafi était tout à fait favorable à ce projet. Mais je dis ça parce que tout simplement, c'est un riverain de la Méditerranée. Comme le dit le président régulièrement, les États ne changent pas d'adresse. Et que donc, c'est un État avec lequel nous devons compter. Et donc nous devons au contraire nous féliciter du fait que la Libye réintègre le jeu international classique.
Le colonel Kadhafi, qui est même le plus chaud partisan hein, de cette union méditerranéenne, mais à une condition que ne mentionne pas David Martinon, eh bien, c'est que Israël n'y participe pas. Alors le président Sarkozy a beau marteler qu'il fera tout pour ramener la Libye dans le droit chemin, et notamment sur la délicate question des droits de l'homme, on sent que ce n'est pas véritablement gagné. Et à l'instar eh bien, du discours de Dakar, cette visite de Kadhafi à Paris brouille assurément un peu plus la diplomatie africaine de la France.
Alors Sarko, l'Africain, c'est pas encore d'actualité ?
Pas vraiment, hein, même si à nouveau l'ambition est là, avec ce projet d'union méditerranéenne qui intéresse bon nombre d'experts et même des députés socialistes en France, et avec également cette volonté que le continent soit mieux entendu. Nicolas Sarkozy a ainsi proposé que le G8 devienne un jour G13, que les grands argentiers du monde incluent dans leur club des Asiatiques, mais également des représentants africains. Explication d'Axel Poniatowski, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, dans ce genre d'instance internationale, il y a clairement une sous-représentation de l'Afrique. On connaît bien les raisons, c'est fondamentalement des raisons économiques, n'est-ce pas ? Et la pauvreté qui peut régner en Afrique. Et je crois qu'en cela, c'est très important d'entendre ce que l'Afrique a à dire et qu'elle participe elle-même directement à l'aide dont elle a besoin. Vous savez, bien souvent, on décide trop pour les autres sans suffisamment leur demander leur avis. Et là, je crois qu'on est exactement dans cette situation.
Voilà, l'Afrique mieux représentée à l'échelle internationale, c'est un projet, un combat que mène, qu'évoque le président Sarkozy à chacune de ses rencontres internationales. Il la défendra à nouveau au niveau européen, surtout lors de la présidence française de l'Union qui commence en juillet prochain.
Merci Véronique Rigolet. C'est la fin de cette première partie de l'ère de campagne. On retrouve nos invités en deuxième partie, Kitri Delmas, délégué national du Modem, et puis Serge Portelli, magistrat, vice-président du tribunal de Paris, auteur de Nicolas Sarkozy, une république sous haute surveillance. Nous parlerons de la politique sécuritaire en France. Restez avec nous.
Les loyers augmentent, la nourriture, l'essence.
Et elle s'en va. Ça aurait de la gueule d'ailleurs.
Vous avez raison, il y a les paroles, et nous les condamnons souvent.
Pas du tout, non.
Vous voyez jusqu'où va notre générosité.